Silence.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.re2m.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien. Bah écoute, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'espère aussi que nos auditeurs vont bien. Merci de nous recevoir chez vous, mes petits chéris. Amoureux du cinéma, entre autres, hein, entre autres, il n'y a pas que le cinéma. Bon, ben, en tout cas, alors, on va reparler de Polly. On en avait parlé le 7, et en fait, la date a été changée, et c'est passé au 21. J'espère que cette fois, on est sur la bonne date, parce que là, c'est un truc de fou quand même. Hein. Encore qu'on ne dit jamais 203, mais espérons qu'il va vraiment sortir là, le 21. En tout cas, bon, Polly, bah, c'était un film d'aventure, c'est pour la famille, c'est français. C'est réalisé par Nicolas Vanier, réalisateur scénariste, il est même acteur français. Il a 58 ans, il fait des très, très, très jolis films. Polly a une nomination, catégorie avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême 2020. Il a déjà eu des nominations sur 9 films. Ça plaît beaucoup ce que fait Nicolas Vanier, donc il est toujours récompensé. Alors c'est pour à partir de 8 ans, hein, enfin c'est ce qu'il préconise en tout cas. 8 ans, moi je dirais 8-10 ans, ouais quand même. Hein, c'est bon, il y a des scènes un petit peu, comment on peut dire, ça peut faire peur à des petits tout, même de 8 ans, qui sont un petit peu impressionnables. Ou voilà, ben ça dépend, vous connaissez vos enfants, vous voyez à peu près. C'est des scènes où il y a rien de méchant, hein, c'est pas du tout. Mais il peut y avoir des scènes qui peuvent faire peur un petit peu. Tim Seed, par exemple, Patrick Tim Seed, qui peut ficher la trouille par moment, parce que d'ailleurs, on ne le reconnaît absolument pas, il est vraiment... comment il fait, je sais pas, il est pas très, il a une tête un petit peu particulière dans le film. Le maquillage a dû être très très pénible. Donc lui, ça peut faire peur à des petits enfants, voilà. Enfin moi, c'est ce que je pense. Hein. En fait, en tout cas, c'est une adaptation, hein, Polly, du feuilleton culte des années 60. Bon, on verra. C'est l'histoire de Cécile, 10 ans, qui déménage dans le sud de la France avec sa mère Louise, qui est infirmière diplômée. L'intégration avec les autres enfants du village n'est pas facile. Lorsqu'un cirque de passage s'installe à côté, Cécile découvre que Polly, le poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger et d'organiser son évasion. Poursuivie par Brancalou, alors c'est lui Brancalou, le chef du cirque, Patrick Tim Seed donc, l'inquiétant directeur du cirque et le mystérieux Victor, Cécile et Polly s'embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d'amitié. Alors Victor, c'est François Cluzet. J'en dirai pas plus sur son personnage. Mystérieux Victor. On ne sait pas, hein. Est-il gentil, est-il méchant? Là, je ne peux pas vous le dire. On a Julie Gaillet. Alors Julie Gaillet, c'est Louise, la maman de Cécile. Et Cécile, alors elle est chou comme tout, c'est Élise de Lambert, adorable absolument. Puis le fameux Patrick Tim Seed, je le recite encore, parce qu'il est dans les premiers rôles bien sûr, Brancalou. C'est un joli casting en fait, c'est vraiment, le casting est une réussite. Alors en fait, avec Polly, le réalisateur, là, Nicolas Vanier, retrouve l'univers de l'auteur, Cécile Aubry. Après, justement, ce qu'il avait réalisé, c'était Belle et Sébastien. Il avait très joli film aussi. Hein. Mais c'est aussi une série qui est passée à la télévision, Belle et Sébastien. Il collabore encore avec François Cluzet, là, alors qu'il l'avait déjà fait tourner dans l'école buissonnière. Bon, ils s'entendent bien, tant mieux. Dans le feuilleton original, le héros, en fait, est un garçon. Hein. Nicolas Vanier a décidé de changer ça. Cette fois, Polly est portée par une jeune héroïne prénommée Cécile, en hommage à l'auteur, bien sûr, Cécile Aubry, qui est décédée en 2010. De plus, après avoir mis en scène un garçon dans Belle et Sébastien, le cinéaste souhaitait explorer autre chose. Voilà ce qu'on nous dit. De plus, l'univers des poney clubs est fréquenté par une majorité de filles. Elles ont une relation particulière avec les chevaux, selon le réalisateur. Ah oui, ça je l'ignorais, mais c'est possible, effectivement. La sensibilité des filles, peut-être. Plus proche des poneys et des chevaux, qui sont des animaux extrêmement sensibles, en fait. Ça doit être pour ça. Ça dure 1h42. Voilà. Je ne sais pas si, Damien, je ne sais pas si tu avais quelque chose. Une bande-annonce, peut-être, non ? Je sais. Polly, merci.
Mon cher petit papa, tu me manques beaucoup. Si, j'ai beaucoup de mal à me faire de nouveaux copains.
C'est la Parisienne, elle peut venir avec nous.
Jamais elle sera de mon clan, celle-là.
Vous savez, moi non plus, j'étais pas du coin. Il m'a fallu un peu de temps pour me faire accepter. Et encore, j'étais ni Parisienne, ni divorcée.
Approchez. Et maintenant, celui que vous attendez tous, lui, que le sang s'assomme en Paris.
On va s'en débarrasser, on va le remplacer par un plus obéissant.
Patron ! 1, 2, 3, surprise !
Si Brancalou retrouve Polly avant nous, il va le livrer au boucher, qui en fera de la chair à pâter.
Et du saucisson !
Il faut nous aider.
Moi, ça m'étonne pas qu'il soit échappé, ton poney.
Mais comment tu traites tes animaux ?
Faut que personne sache que Polly est ici, d'accord ?
Promis, jury craché ?
Oui. Ouais.
Tu peux partir tranquille, ils vont être occupés pour un moment.
Petite maman, je m'en vais de la maison.
Laissez-moi faire, moi je connais bien le secteur de la rivière.
On a touché des taquivalki.
Je vous entends, mon adjudant.
Mais oui, mais dans la boîte, hein.
Emmenez-moi.
Qu'est-ce que tu fous le côté avec la gamine, hein?
À nous de jouer.
Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Je quitterai plus jamais.
Et voilà, Polly, donc, le nouveau film de Nicolas Vanier.
Oui, très joli film. Donc, qui a été repoussé du 7 au 21. Alors, j'espère que cette fois, vous l'aurez vraiment pour le 21. Bon, on ne sait plus trop, là. Il y a pas mal de changements. Ben oui, c'est comme ça. Voilà, pour l'instant, on n'y peut pas grand-chose. Alors, j'ai une animation qui est pour la famille. Oui, puisque c'est à partir de 3 ans et que ma petite copine Naya va certainement y aller avec son petit frère Liwen. Je les vois déjà. Alors, en fait, c'est britannique, c'est tchèque et c'est suisse. Ça veut dire qu'on a 3 réalisateurs, là, sur le coup. Il y en a même d'autres, je crois, d'ailleurs. Enfin, là, j'ai Max Lang, qui est un réalisateur, adaptateur, scénariste britannique. Il a déjà eu un prix et 5 nominations, cet homme-là. On a Daniel Snadon, qui est un réalisateur, animateur sud-africain. On a Philippe Diviak, qui est un réalisateur, scénariste tchèque. C'est quoi, ça, la baleine et l'escargotte ? Eh bien, c'est une petite escargotte de mer qui s'ennuie sur le rocher d'un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l'emmener en voyage à travers les océans du globe. Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Eh oui, si on part d'une escargotte et d'une baleine, il y a le petit et le très grand, le très petit, le très grand. Alors, on a dans les voix, on a des gens qui sont habitués d'ailleurs au doublage. On a Colette Saudoyer, on a Maya Baran et Philippe Résimon. Alors lui, Philippe Résimon, il est connu, hein. C'est un acteur belge. Quand on le voit, on sait qu'on l'a déjà vu, si on est un peu habitué à aller au cinéma. Voilà, et donc il fait du doublage aussi. C'est très, très, très mignon, ce petit film. En fait, à l'origine, c'est un livre pour enfants. Voilà, et avec un texte en rime qui est rédigé par Julia Donaldson et les illustrations par Axel Scheffler. Alors, les réalisateurs Max Lang et Daniel Snowden nous disent « Nous souhaitions créer de manière très artisanale un monde intemporel que les enfants puissent immédiatement adorer. La perspective d'avoir à restituer un univers entièrement sous-marin était un défi passionnant. L'eau est un élément incroyablement difficile à animer. Dans cette histoire, elle est partout. Nous nous sommes vraiment concentrés sur sa modélisation durant la pré-production. Toute l'équipe s'est surpassée pour atteindre l'excellence et nous sommes heureux du résultat. Mais nous aussi, parce que c'est vraiment très joli, c'est très mignon. Vraiment, hein, c'est tout à fait. Et mais je ne sais pas, ça dure 0h40. Je ne sais pas si... Est-ce que tu avais, toi, quelque chose ?
Évidemment.
Merci.
Ceci est un rocher noir comme un conduit de cheminée. Et voici la demoiselle Escargotte qui rêvait de voyager.
Si vaste est le monde.
Voici la baleine qui vint une nuit.
Viens, je t'emmène en voyage. Ceci est l'océan.
Comme on y est libre et comme il est grand.
Les yeux grands ouverts, elle contemplait, émerveillée. Mais voilà qu'un matin, la baleine perd son chemin.
Oh, je ne peux pas échouer,
dit l'escargotte d'un air décidé.
Sauvez la baleine !
Et voilà la baleine et l'escargotte.
Oui, joli design et jolie musique aussi. Très, 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 très mignon, très. Et puis, j'ai encore une autre animation, mais oui, qui s'intitule Petit Vampire. Oula ! Alors, c'est une animation française qui a eu le prix de la Fondation GAN à la diffusion au Festival du film d'animation d'Annecy en 2017. C'est réalisé par Johan Sfar, qui est un habitué absolu de ce genre de
qui a écrit les BD Petit Vampire.
Oui.
Depuis de nombreuses années.
Tout à fait. Oui, c'est vraiment un habitué. Il est réalisateur, scénariste, il est acteur, il a 49 ans. Il a déjà eu 4 prix et 16 nominations sur 18 ans de carrière, ce qui est quand même pas mal. C'est vraiment très chouette. Oui, on lui doit quand même, il a eu des prix pour Le Chat du Rabbin, qui est sorti en 2011, magnifique. Qui avait eu le César, d'ailleurs, carrément, du meilleur film d'animation. On lui doit également Gainsbourg, Vie héroïque, qui est sorti en 2010. On en avait parlé. Alors, avec Eric Esmos... Elmos, voilà.
Elmos Nino.
Dès que je fais Esmo, alors c'est raté. Oh, excusez-moi, monsieur Eric Elmos Nino et Laetitia Casta. Bon, lui jouait Gainsbourg. C'était vraiment une réussite, en fait. C'était pour ce film, Gainsbourg, il a eu le César de la meilleure première œuvre en 2011. Eh oui. Alors, Petit Vampire, on revient à lui. Il vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande de monstres, mais il s'ennuie terriblement. Ça fait maintenant 300 ans qu'il a 10 ans. Alors les bateaux de pirates et le ciné-club, ça fait bien longtemps que ça ne l'amuse plus. Son rêve, aller à l'école pour se faire des copains. Mais ses parents ne l'entendent pas de cette oreille. Le monde extérieur est bien trop dangereux, accompagné par Fantomate, son fidèle bulldog. Petit Vampire s'échappe du manoir en cachette, déterminé à rencontrer d'autres enfants. Très vite, il se lie d'amitié avec Michel, un petit garçon aussi malin qu'attachant. Mais leur amitié naissante va attirer l'attention du terrifiant Chibou. un vieil ennemi qui était sur les traces du petit vampire et de sa famille depuis des années. Alors dans les voix, on a des gens qu'on connaît absolument, on a Camille Cotin, on a Alex Lutz, on a Jean-Paul Rouve, oh là là, chouette casting quand même là, hein, pour ça, il n'y a pas de doute. Alors c'est quoi? C'est titré d'ailleurs un bijou d'animation, tendre et drôle. Ah oui, c'est moi j'aime beaucoup, hein, là j'avoue franchement, j'aime beaucoup cette animation-là. J'ai dit que ça durait 1h21. Vampire, petit vampire, je ne sais pas si on avait quelque chose. Damien, est-ce que tu avais, toi, quelque
oui,
chose?
Oui, j'ai quelque chose de petit vampire.
Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincée ici.
Tu peux pas dire ça.
Moi, je m'en fiche. Je quitte cette maison.
Il a perdu la boule.
Je veux qu'on me traite comme les autres enfants.
Vous allez où ?
À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Bien le nom de l'élève. Michel Doufon.
Qui es-tu ?
Un vampire.
Et je veux être ton ami.
Baillonne-le !
Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe. C'est mes grands-parents, j'ai perdu mes parents.
Ah bon ? Tu les as mis où ?
Ah, t'es rigolo, perdu mes parents, c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts.
Maman, les morts-morts, ils bougent plus jamais ?
Non, ils ne bougent plus jamais.
Nous, c'est pas pareil ? Il existe des êtres sur cette planète qui peuvent nous faire mourir vraiment. Le Djibous !
Je suis en colère ! Personne ne vous sauvera !
Je jure d'être un super copain pour Petit Vampire et de jamais dire qu'il se planque ici. Ni à mes copains, ni même à des filles !
Si tu sors d'ici la nuit, tu risques ta peau et notre moussaillon. On va le retrouver en sa chimie. Tous en avis !
Tiens bon, Michel, j'arrive.
Mais ne le laissez pas partir avec votre gonzesse, cette face de lune !
Ça n'arrivera pas.
À l'abordage !
On va faire quoi ?
Sauver Petit Vampire et éviter un châtiment innommable.
Qu'est-ce qu'on se marre aujourd'hui ?
Et voilà donc Petit Vampire
ça
de
bouge,
Joan Sfar.
Ça bouge. C'est joli, tu ne trouves pas, Damien ?
Oui.
C'est joli.
Ça donne envie.
C'est mignon, oui, ça donne envie, oui. Voilà, ensuite, on va passer à une comédie française. Alors, le titre n'est pas poli. C'est un gros mot qu'il ne faut pas dire. Mais ça ne fait rien, on va le dire, puisque c'est dans le titre. Adieu les cons. Eh ben oui. Oui. Moi, j'ai répété pour pouvoir vous le dire, mes chéris. Je ne suis pas habituée à dire des gros mots comme ça. Ah, il a fallu que je répète plusieurs fois, n'est-ce pas, Damien ? J'ai répété. Hein ? Ah oui, j'arrivais pas, moi. Je blague. Alors, c'est un film d'Albert Dupontel. Ah, on l'aime, Albert Dupontel, quand même. Réalisateur, scénariste, acteur français. Il a 56 ans et, s'il vous plaît, il a déjà eu 4 prix et 23 nominations. Alors, il y a une nomination pour Adieu les cons, catégorie avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême 2020. Alors, il a quand même eu aussi le César de la meilleure adaptation en 2018 pour un film dont on avait parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, Au revoir là-haut, qui est sorti en 2017. C'était le César, et il avait eu non seulement le César de la meilleure adaptation, mais César de la meilleure réalisation également. Très chouette, hein, le film. Mes chéris, si vous trouvez le DVD Au revoir là-haut, franchement, si vous aimez Albert Dupontel et ce qu'il fait, n'hésitez pas, si vous ne le trouvez pas trop cher, prenez-le et régalez-vous chez vous. Ah oui. Alors c'est quoi Adieu les cons ? Eh bien, on va voir. Lorsque Suze Trappé apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle, d'un enthousiasme impressionnant. Ah oui, Monsieur Blin, enthousiaste. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Alors, dans les rôles, c'est pareil, là, on a un très, très, très chouette casting. On a Virginia Efira, c'est pas mal, ça, Virginie Efira. Oh, une actrice que j'aime énormément, si en plus je froisse son prénom. Donc, Virginie, elle fait Suze, c'est elle, Suze Trappé. Et JP, alors JP, c'est Albert Dupontel, eh oui, himself, dans le film. On a Nicolas Marié, qui joue l'aveugle d'ailleurs. On a Jackie Berroyer, il est incroyable Jackie Berroyer dans le film, franchement. On a Philippe Huchan, on a Bouly Lanners, ah, notre Bouly Lanners qui revient. On a David Marsay, on a Laurence Stocker, on a Bastien Huguetto, Grégoire Ludig, Marie-Lou Ossiou, Michel Villermoz. En fait, ils sont tous très, très, très connus. Pour les habitués du cinéma, vraiment, là, on les connaît tous. Hein. Il n'y a aucun problème. Puis alors, on a un caméo avec, enfin, un Terry Gilliam, voilà, qui est un réalisateur quand même, hein, qui est un Britannique, qui nous fait un caméo dans le film. Voilà, Terry Gilliam, ouais, grand, grand réalisateur. Alors, Albert Dupontel, en fait, il avait envie d'une tragédie burlesque, voilà, tout en commentant à sa façon, comme toujours, hein, le monde qui l'environne. Il nous dit « Pour cette histoire, je suis partie de l'idée d'opposer deux combles. Quelqu'un qui veut vivre, mais qui ne peut pas, à quelqu'un qui pourrait vivre, mais qui ne veut pas. Hein » Eh oui. Écrire, en fait, ça a toujours été difficile pour Albert Dupontel d'écrire. Ouais. Il nous dit qu'il a quand même passé 18 mois à réécrire la même histoire depuis 20 ans. Il nous dit, je suis un Sisyphe, narratif Sisyphe, hein, le mythe de Sisyphe. Hein. Revoyez un peu ça hein, dans les contes et légendes grecs et barbares, vous avez le mythe de Sisyphe. Donc il dit qu'il est un Sisyphe narratif avec de surcroît le rocher qui me tombe sur la tête. Sisyphe est attaché à un rocher, hein, le fameux Sisyphe. À vrai dire, ajoute Albert Dupontel, je pense que nous avons tous en nous beaucoup d'histoires. La difficulté pour moi consiste à les extirper de ma confusion mentale. Il ne changera jamais, Albert Dupontel. Il a un humour extraordinaire, un décapant. Alors, il nous semble, là, dans ce film, qu'il a tissé une thématique commune entre ces différents films. Par exemple, de Bernie à Adieu les cons, autour de la filiation, et aussi c'est autour de la maternité. Donc il ajoute, sans que je sache pourquoi, ces thèmes m'attirent, comme un reset permanent de mon disque dur personnel. Et pourtant, j'ai eu une enfance super, aimée, éduquée. Mais peut-être que dans une autre vie, ça s'est moins bien passé. Et là, il éclate de rire d'ailleurs pendant l'interview, à ce moment-là. Le prochain sujet, nous dit-il, aura un autre décorum, mais ses ressorts dramatiques seront toujours ancrés dans ce thème. Ah, vivement qu'on voit un peu ce qu'il va nous préparer. On verra, on en parlera probablement à l'antenne. Hein. Alors voilà, pour Adieu les cons, le réalisateur, il a souhaité se concentrer surtout sur une narration émotionnelle. En conséquence, mettre l'énergie sur l'incarnation de ses émotions avec les acteurs. Le film, en fait, se passe pour moitié de nuit. À cause de ça, justement, c'est ce qu'il nous dit. Je suis restée en studio, sur fond bleu, imaginant et racontant les décors, à défaut de les avoir. Cela m'évitait le labeur d'un tournage de nuit, d'un décor naturel peu maîtrisable. Et surtout, je souhaitais poétiser et magnifier le plus possible ces décors urbains, souvent sinistres, afin qu'ils m'aident à raconter ce conte. Pour être tout à fait sincère, je savais très bien que Cédric Fayolle, le superviseur des effets spéciaux, créerait et poétiserait ces décors urbains sur lesquels il a travaillé près de 8 mois. Eh oui. Et la seule question que je me suis posée, en fin de post-production, était « Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire ?» Point d'interrogation. Et je n'ai pas trouvé la réponse. C'est incroyable, ça. Alors, donc, son film est un hommage aussi à Terry Jones. Il explique pourquoi. Terry Jones, c'était un acteur britannique qui est décédé le 21 janvier 2020. Il avait 78 ans.
Un des membres des Monty Python.
Voilà, tout à fait, qui était un ami d'Albert Dupontel. Donc, Adieu les cons est dédicacé au Monty Python, Terry Jones. Donc, il a été le premier des Monty Python que j'ai connu, nous dit Albert Dupontel, après la sortie de Bernie. Il m'avait demandé une VHS pour voir le film. Puis j'ai reçu 2 lettres de lui me disant qu'il avait beaucoup aimé le film. et qui n'avait pas encore tout vu. Et là, Albert Dupontel se met à rire aussi pendant l'interview. Sa considération à mon égard m'a fait un bien fou. Que le metteur en scène des Monty Python vienne ensuite incarner Dieu dans mon deuxième film Le Créateur était pour moi un véritable aboutissement. Une de mes boucles était bouclée. Sa faconde, sa culture, sa gentillesse, son humour me manquent énormément, ajoute Albert Dupontel. Donc c'est un hommage à cet acteur. Ah, les Monty Python, ça c'est... Moi, je vous avoue, mes chéris, je ne sais pas si vous connaissez les Monty Python, parce que maintenant, c'est quand même assez ancien. Je les ai beaucoup aimés, moi. Beaucoup regardés à l'époque et beaucoup aimés. C'était vraiment... C'était un humour extraordinaire, très différent de ce qu'on connaît, nous, en France, d'ailleurs. Il y a une espèce d'humour anglais, quand même. extraordinaire. Voilà, ma foi. Adieu les cons.
On écoute la bande-annonce.
Oh oui,
il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile.
À ce point ?
Oui, ça c'est normal. Hein. Donner ses données, reprendre ses volets.
Tu m'excuses, mais je trouve ça trop injuste.
Quoi, on peut rien faire alors ?
Ça peut prendre du temps.
Oui, c'est-à-dire, j'ai un souci de santé.
Si vous êtes pressé, on s'en sort plus.
Excusez ma grossièreté. Adieu les cons. Attends.
Bonjour.
Je
me suis strappée. J'étais à l'agence de santé.
Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier.
On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail.
C'est sur moi que je tirais.
Ah bon ?
Prévenez à l'intérieur.
Est-ce qu'il peut récidiver ?
J'aimerais vous dire que non, mais maintenant, il est en fuite, en rage.
Madame, et si je peux vous aider ? C'est très gentil, mais je vois pas comment.
Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez ?
Oui.
Waouh !
Waouh !
Waouh.
Il pose son arme et on va discuter tranquillement.
5 ans.
Les mains derrière la tête.
C'est une méprise. S'il vous plaît, docteur.
Vous êtes des médecins ?
Oui, j'ai un petit garçon avec vous.
On a eu un enfant ensemble.
Madame Trappé, quand toutes les bruines à tempérament, elle cherche la vie, l'énergie du positif.
Elle cherche surtout son gamin.
Et là encore, c'est une quête d'amour.
Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une vie.
Voilà le film Adieu les cons, dernier film d'Albert Dupontel.
Mais c'est la Manu Negra qu'on entend, la musique, hein, à un moment donné.
Malavida.
Pareil, la Manu Negra, on ne s'en souvient pas, mais ça fait partie quand même du groupe qui a le plus tourné aux États-Unis à l'époque.
On s'en souvient bien.
Hein. Ouais, ils ont vraiment énormément tourné. Moi, je les ai rencontrés une fois à Paris et c'était assez extraordinaire. Ouais, et on les entend là. Enfin, Albert, en fait, selon Albert Dupontel, Virginie Efira, qui a le rôle de Suzy, la principale, s'est prêtée avec beaucoup d'humilité au jeu des essais. Il nous dit d'elle, d'ailleurs, je l'ai trouvée épatante, ce qu'a confirmé la caméra. Un mélange populaire, sexy, émouvant. Voilà. L'incarnation du personnage de Suze lui appartient. Je n'ai eu qu'à surfer sur ses larmes. De surcroît, elle dégage à l'image une tendresse et une humanité que j'ai, au Rush, accueillie avec ravissement. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter la détresse de cette femme qui va rencontrer plein de bras cassés sur son parcours face à une administration indifférente et numérisée. Et elle va libérer ce petit monde sur son passage, désinhiber JB et révéler l'amour fou pour la vie qu'a Monsieur Blin. C'est vrai que Virginie Efira vraiment augmente ses galons, je trouve, de plus en plus. C'est vraiment une excellente, excellente comédienne. C'est pour ça que je voulais vous dire un peu ce que disait Albert Dupontel de cette actrice. Alors, oh mince, j'ai mis de côté un drame. Eh oui, mais c'est de la science-fiction également. Voilà, il y a les deux. C'est italien, c'est français, c'est américain. Ça s'appelle Last Words, le dernier mot. Voilà. C'est de Jonathan Nocifer, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 59 ans, il a déjà eu 2 prix et 15 nominations. Oui, ça se passe bien pour lui. Alors, c'est une adaptation, en fait, de mes derniers mots, de Santiago Amigorena. On va voir un peu qui est ce monsieur. Donc c'est un, ben on va le dire, on va le voir d'ailleurs. C'est un réalisateur, hein, Santiago Amigorena. C'est un scénariste, un producteur, c'est un écrivain argentin. Il a, ben il a de, ben d'ailleurs, il a à peu près le même âge que Jonathan Nocifer, le réalisateur. Il a 58 ans. Il vit en France et il a été marié entre 2003 et 2006 à Julie Gayet. Ce que j'ignorais absolument, ça c'est pour la petite histoire. Et puis il a été le compagnon de Juliette Binoche de 2005 à 2009. Ouais, je sais tout maintenant sur Santiago Amigorena. Et vous aussi. En tout cas, pour ce film, il y a quand même un avertissement, il faut le dire tout de suite. Des scènes, des propos, des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Alors il a eu 6 nominations. Donc 5 au Festival du cinéma américain de Deauville 2020 et une au Festival de Cannes 2020. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ça se passe en 2085. La Terre n'est plus qu'un immense désert. Les derniers survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un ultime espoir. C'est pas l'espoir qu'ils appellent, mais ils ont un ultime espoir s'ils rejoignent Athènes. Et si l'humanité parvenait à trouver la plénitude alors même que tout s'écroule et qu'elle est condamnée ? Humanité avec un grand H, évidemment. L'histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et joyeuse par les 5 derniers êtres humains. Alors, dans les acteurs, on a Nick Nolte, Khalifa Touré, Charlotte Rampling. Ah, Charlotte Rampling, qui est une actrice britannique, hein, d'expression française et anglaise d'ailleurs. Et on a Stellan Skarsgård, qui est un acteur suédois extrêmement connu et très populaire chez lui d'ailleurs. Pareil, si on est un habitué, on le reconnaît dès qu'on le voit. Alors c'est, en fait, il a travaillé, Jonathan Nocifer, le réalisateur, a travaillé sur ce film, sur Last Words, depuis 2014 quand même. Hein. Ça ne lui est pas venu d'un coup comme ça. C'est donc adapté, c'est ce qu'on disait, hein, du roman « Mes derniers mots » de Santiago Amigorena. Et ça se situe dans les prévisions inquiétantes des scientifiques sur le réchauffement climatique et la disparition volontaire de la culture dans notre quotidien. Il nous précise, le réalisateur, « Je vis aujourd'hui en Italie, ayant des liens profonds avec la France, le Brésil, les États-Unis et l'Angleterre. Et partout, je vois la même maladie à l'œuvre, une nouvelle barbarie qui méprise la culture, mais aussi l'éducation et la santé. Nous sommes en train d'en payer le prix. » Le film montre une poignée de survivants refermés sur eux-mêmes et qui retrouvent le plaisir d'être ensemble autour de projections de films du passé. Il nous explique pourquoi il a choisi ce dispositif, d'ailleurs. Déjà, avant cette crise du coronavirus, quand j'entrais dans le métro à Rome, je remarquais tous ces regards qui s'évitaient. Et j'ai très peur que le peu de contact physique qui subsistait disparaisse après cette crise. Je pense avoir réalisé un film apocalyptique, plein de tendresse, d'amour et d'espoir véritable, parce que je crois toujours dans la force de la culture sauvage, vraie, nécessaire, pas dans les produits d'une culture vouée à l'argent. Je suis convaincue que le cinéma, comme les livres, la musique ou la peinture, joue un rôle essentiel, aussi essentiel d'ailleurs que la santé publique. Peut-être, après cette crise, assisterons-nous à un réveil général et les gens repenseront-ils leurs priorités ? Alors, il y a les scènes, en fait, les scènes qui se passent dans les ruines grecques, c'est-à-dire Athènes, ont été tournées à Pestrum, au sud de Naples, dans le Cilento. Le site archéologique est dirigé par un jeune Allemand qui est investi dans la vitalité présente du passé dans la culture régionale. Et le réalisateur nous dit, il a ouvert le parc pour qu'on puisse filmer au milieu des temples, de façon extraordinairement, Jean Béguet, libre. Le film est nourri de cet ancrage culturel. Nick Nolte, l'acteur, est arrivé de Californie au milieu de ce parc archéologique, entouré de tous ces paysans et de cette culture du bien-manger, un monde du passé tourné vers le vivant. Lui-même cultivait dans son ancienne maison un potager bio. Il était sensible à l'aspect écolo du film, sinon il n'aurait pas adhéré au projet. 4 mois de tournage dans des conditions franciscaines. Voilà ce que nous dit le réalisateur, en parlant de Nick Nolte. Voilà, c'est donc finalement, il nous rappelle, c'est lui qui nous parle du coronavirus et qui nous dit de faire très attention, de ne pas trop s'éloigner les uns des autres, même si pour un temps encore, on restera masqué. Mais quand même, on a besoin les uns des autres. On a besoin de la culture aussi. On a besoin du cinéma, on a besoin de la lecture, on a besoin de tout ça. On a besoin aussi de vivre bien ensemble. C'est ce que nous rappelle Jonathan Nocifer, le réalisateur. Là, ça dure 2h06. C'est très beau en plus, parce que Charlotte Rampling est comme d'habitude, là, elle est magnifique. Elle a un talent fou, mais tous. Nick Nolte, Stellan Skarsgård aussi. Khalifa Touré, ils ont tous un talent fou. Et il a bien choisi son casting, en fait. Parce que ce n'était pas évident de jouer ces personnages de fin du monde qui se retrouvent ensemble. Et c'est quand même en se passant des films du temps passé qu'ils vont beaucoup s'amuser. Comme quoi le cinéma, quand même, est quelque chose de très important. Et puis, après j'ai un biopic. Oh, un biopic historique, c'est drame, il y a du drame. C'est russe, c'est italien, et ça s'appelle Michel-Ange. Il n'y en a qu'un Michel-Ange, évidemment. On parle de lui, le grand Michel-Ange. Alors, c'est un réalisateur russe, Andrei Konchalovsky, qui est scénariste également, producteur, et qui a 83 ans. Il a réalisé, donc, Michel-Ange, 3 prix, 34 nominations. Alors, on lui doit... On connaît pas mal ça. On lui doit Runaway Train, qui est un film d'action d'aventure qui est sorti en mai 1986, qui est repassé plusieurs fois à la télévision, d'ailleurs. Runaway Train. Il y avait dedans Rebecca de Mornay et John White. John White, c'est pas un W, c'est un V. John White, c'est... Pour la petite histoire, c'est le père d'Angelina Jolie, au fait, dans la vie. Et puis, on lui doit Tango et Cash aussi, avec Sylvester Stallone et Kurt Russell. Voilà, donc il fait de tout. Et là, c'est Michel-Ange. Michel-Ange, à travers les moments d'angoisse et d'extase de son génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa loyauté. Alors, on a dans le rôle de Michel-Ange, on a Alberto Testone. Alberto, je devrais rouler le R, puisque c'est un acteur italien. Il est assez formidable, d'ailleurs. On pouvait imaginer Michel-Ange, parfois, se dire, tiens, comment il était. Après tout, on a des portraits de lui, enfin, il y a des dessins. Mais je trouve qu'il... C'est pas mal, moi, je trouve qu'on peut le représenter à travers Alberto Testone. Oui. On a Jacob Diehl, qui est un acteur franco-allemand. On a Francesca Candiello, Francesca, ça se ressemble, mais là, c'est un garçon, c'est un acteur italien, Francesco Candiello. On a Federico Van, aussi, qui est aussi un acteur italien, d'ailleurs. Il y a une majorité d'acteurs italiens, en fait. On a également Anita Pitito, on a Glenn Blackhall, et on a une actrice russe, oui, qui est très connue chez elle, d'ailleurs, Yulia Vysotskaya, qui est pas mal non plus d'ailleurs. Alors Michel-Ange, en fait, a été conçu comme une vision, nous dit le réalisateur, un genre populaire à la fin du Moyen-Âge auquel appartient la Divine Comédie de Dante. Ce dernier pousse le spectateur à de multiples interprétations des personnages comme des événements, éclairant ici la conscience d'un génie. Celle d'un homme de la Renaissance, avec ses superstitions, ses exaltations, son mysticisme et sa foi. Je voulais montrer non seulement les sens de Michel-Ange, mais également les couleurs, les odeurs et les saveurs de son époque, sanglante et cruelle, mais belle et inspirée. La poésie du film provient de l'entrelacement de la barbarie, omniprésente à l'époque, et de la capacité de l'œil humain à capturer l'éternelle beauté du monde et de l'humanité, qui devrait être transmise aux générations à venir. Mon Dieu, comme c'est bien dit pour parler de Michel-Ange. Alors, en fait, le réalisateur avait lu un court poème d'un aristocrate qui faisait partie du gouvernement de Florence et qui était un ami de Michel-Ange. Alors qu'il visitait le tombeau des Médicis avec ses sculptures, il dit « Ce marbre est tellement vivant qu'on attend qu'il se réveille ». Michel-Ange a répondu par un autre poème « C'est mieux de dormir dans une pierre que de vivre dans une époque de honte et de trahison. Alors, mon ami, ne me réveille pas. » Alors, c'est cet échange-là, de ces deux poèmes-là, qui ont décidé le réalisateur à travailler sur Michel-Ange. Il a passé 5 ans à l'étudier quand même, hein, avant. C'est un projet très personnel, nous dit-il. Mais il ne voulait pas tourner une biographie. Il voulait vraiment parler, nous faire sentir ce qu'était Michel-Ange et sa fragilité, son génie. Alors Michel-Ange adorait Dante, eh oui, en particulier l'enfer et le purgatoire. Il était un grand connaisseur de la Divine Comédie et il pensait, étant du même pays et de la même culture, être capable de rencontrer l'esprit de Dante. Voilà ce que nous dit le réalisateur sur Michel-Ange. Il a vraiment bien étudié. Moi, j'ignorais absolument, je croyais connaître Michel-Ange. Je ne sais pas toi, Damien, mais moi, j'ignorais qu'il était un fan, puisqu'on dit ça maintenant, un fan de Dante. Je ne savais pas du tout. C'est pas évident, parce que Dante, c'est quand même... C'est pas du comique, hein, Dante. Hein, c'est quand même c'est profond et en même temps c'est sombre. Alors voilà, c'est un réalisateur quand même, Andrei Konchalovsky, qui a émigré aux États-Unis. Il a fait beaucoup de choses. C'est aux États-Unis qu'il a pu réaliser les films d'action dont je parlais tout à l'heure, hein, One Way Train et Tango et Cash. Ouais. Donc, c'est un monsieur qui est allé un peu partout quand même. Voilà, il voulait que ce soit l'opposé d'un long métrage hollywoodien, en fait. Voilà. Très, très beau film. Si vous aimez Michel-Ange, franchement, ce film est pour vous. Hein. Absolument. Il dure 2h16. Très beau, Michel-Ange. Ce génie extraordinaire. Ouh, alors pour les amateurs d'épouvante, j'ai le best, là, vraiment, vraiment. L'action épouvante de l'horreur, c'est sud-coréen, mais c'est vraiment interdit au moins de 12 ans, mais ça c'est normal, hein, comme tous les films d'épouvante. Ça s'appelle Peninsula. Peninsula, il y a une nomination au Festival de Cannes 2020, dans la catégorie label, c'est-à-dire qu'il a le label de Cannes quand même, hein, ce film, ce qui n'est pas rien. Et dans les fidèles, c'est-à-dire le label des fidèles. Alors les fidèles, ce sont ceux qui sont déjà venus au moins une fois en sélection officielle. Ça s'appelle le label des fidèles. Il y a aussi les nouveaux venus, il y a les premiers films, etc. Et lui, c'est le label les fidèles. C'est Sang Ho-yeon, qui est un réalisateur, scénariste, chef monteur sud-coréen de 42 ans, qui a réalisé ce chouette film d'action et d'épouvante. Il a eu déjà pas mal de nominations, en fait. Alors, 4 ans après... Alors, on lui doit, effectivement, 4 ans après Dernier Train pour Busan, qui est sorti en août 2016. Il ne reste donc... C'est le synopsis, hein. Donc, 4 ans après... Ce dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d'y retourner découvre que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies. C'est titré d'ailleurs « Échapper à l'apocalypse ». C'est quand même... Alors, dans les rôles principaux, on a Dong Wong-gang, on a Do Yoon-kim, on a Jung Yeon-lee, et Hayo Kwon, que des acteurs coréens qui s'en sortent vraiment bien. Ah oui, oui, là, c'est quand même... Alors, c'est en fait, le dernier train pour Busan, ça parlait... C'est très curieux, d'ailleurs, parce que il ne faut pas faire d'amalgame avec ce qui nous arrive en ce moment, avec notre virus, là. Mais c'est l'histoire d'un virus, justement, dernier train pour Busan. C'est un virus inconnu qui se répand en Corée du Sud. Et l'état d'urgence est décrété. Les passagers du train KTX se battent afin de survivre jusqu'à Busan, Busan étant l'unique ville où ils seront en sécurité. il y avait une nomination pour à la séance de minuit. Donc ce réalisateur sud-coréen, je sais pas s'il a une boule de cristal, mais enfin c'est quand même assez curieux cette histoire. En tout cas, c'est excellent pour les amateurs, hein. Vraiment. Hein, c'est le best, quoi. Hein. Ça fait partie. En fait, Peninsula fait partie des 10 films ayant obtenu le label justement Cannes 2020. Ils ne sont que 10 et à être présentés au Festival du cinéma américain de Deauville 2020. Donc, il est dans les films excellents. Dans le genre. Oui. Ah oui, je ne pouvais pas passer à côté quand même. Hein. Et puis, pour passer, pour changer, pour partir un peu de la fiction, j'ai mis de côté deux, trois documentaires, trois, quatre même, qui m'ont semblé vraiment intéressants. Alors, par exemple, j'ai celui, le documentaire de Daniel Kupferstein, qui est un réalisateur scénariste français, qui s'intitule « Pas en mon nom ». C'est un documentaire qui dure 1h32. Excusez-moi, je n'ai pas dit Peninsula que ça durait 1h56. Peut-être bien. Hein, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est quoi « Pas en mon nom » Souvent, en France, lorsque les conflits reprennent au Proche-Orient, les personnes d'origine juive sont appelées à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant, un certain nombre d'entre elles, comme moi, ça c'est le Daniel Kupferstein hein, qui le dit, refusent de s'enfermer dans cette assignation communautaire, tout en craignant le développement de l'antisémitisme. C'est pourquoi je suis allée à leur rencontre. Pas en mon nom. 1h32. Ensuite, il y avait Le Feu Sacré, documentaire français de Éric Guéret, qui est un réalisateur, scénariste, directeur de la photographie français, et qui nous parle de l'aciérie Ascoval, dans le Nord, qui est menacée de fermeture. Les 300 salariés ont une année pour trouver un repreneur. Dans la chaleur des fours, sur les barrages routiers et jusqu'aux couloirs de Bercy, les ouvriers, la direction et les responsables syndicaux refusent de se laisser submerger par cette violence mondialisée. L'usine est neuve, rentable et parfaitement convertible dans une économie de développement durable. Ce sont les vies de ces hommes et de ces femmes et de leurs familles qui sont en jeu. Leur ténacité et leur union feront leur force. Ça dure 1h33, ça s'appelle Le Feu Sacré. Alors évidemment, au départ, Éric Guéret, là, il voulait faire un film sur un plan social dans une région désindustrialisée. Il comptait se centrer sur la question suivante. Comment des hommes et des femmes d'une cinquantaine d'années s'organisaient pour survivre quand ils perdent leur travail dans des secteurs extrêmement touchés par le chômage de masse. Voilà. Et c'est la région du Nord qui l'intéressait particulièrement. Il a cherché pendant des mois. Et un jour, il a entendu parler des salariés de l'aciérie Ascoval, près de Valenciennes, qui avaient arrêté la production et bloqué les carrefours autour de l'usine pour protester contre sa fermeture imminente. Alors il dit d'ailleurs, j'ai sauté dans ma voiture et je suis allé les retrouver à 5h du matin, autour d'un feu de pneus à côté de l'usine. Je me suis installé avec eux et j'ai commencé à tisser des liens. Une semaine plus tard, ils ont eu rendez-vous à Bercy, et une solution provisoire a été trouvée. Ils ont obtenu des commandes, et des aides pour survivre encore quelques temps. Ils avaient un an pour trouver un repreneur et sauver l'aciérie. Mon projet de filmer un plan social est tombé à l'eau. Le film aurait pu s'arrêter là. Voilà, il se trouve que Éric Guéret, le réalisateur, avait eu le temps de s'attacher aux salariés. Il trouvait qu'il dégageait une force incroyable. Il sentait qu'il ne lâcherait rien et qu'il voulait tout tenter pour survivre. Voilà comment est né Le Feu Sacré, le documentaire d'1h33 d'Éric Guéret. Si vous êtes intéressé par ces problèmes, effectivement, de fermeture d'usine et d'attente de repreneurs, etc., ce documentaire est pour vous. Essayez de le choper. De toute façon, il va sortir en DVD. C'est très intéressant. Puis j'avais mis de côté également City Hall, qui est un documentaire américain de Frédéric Wiseman, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 90 ans, il continue a tourné. Il a un prix et 18 nominations déjà. Et alors, ce documentaire City Hall, c'est quoi ? Ben, c'est Frédéric Wiseman, donc le réalisateur, investit la municipalité de Boston, où le maire démocrate Martin Joseph Walsh et ses équipes travaillent dans un esprit participatif et collaboratif avec les citoyens à la mise en place d'une politique sociale, culturelle et égalitaire. Donc ce documentaire dure, attention, on reste assis quand même, 4h32. J'arrive même pas à le dire parce que c'est terrible. 4h32, oui. Mais c'est pas facile à dire, 4h32. Essaie pour voir de le dire.
4h32.
Ah si, tu y arrives, toi. Bon, bah ça va, t'aurais pu faire semblant de bégayer pour m'aider un peu. Je plaisante. Non, mais c'est bon. Voilà, mais c'est un documentaire qu'il faudrait choper quand même. Hein. Parce que vraiment, bah, on verrait un peu comment ça se passe à Boston. Et ce maire-là, de Martin Joseph Walsh, fait des choses quand même extraordinaires. Ça pourrait servir d'exemple aussi, en fait, à d'autres pays, hein, dans d'autres villes ailleurs. Et oui, non, parce que c'est formidable, quoi. Et ce film, finalement, City Hall, met en lumière une administration municipale offrant une grande variété de services importants et nécessaires à une grande ville américaine dont la population illustre l'histoire et la diversité de l'Amérique. Le gouvernement de la ville de Boston est le contraire de ce que représente Trump. Cette municipalité conçoit et s'efforce d'offrir ses services d'une manière conforme à la Constitution et aux normes démocratiques. Voilà ce que dit Frédéric Wiseman dans son interview. Ah ouais, City Hall. Et puis j'avais... celui-là aussi, oui, d'ailleurs. Exposition sur grand écran. En fait, le titre, c'est Exhibition on Screen. Frida Kahlo. Dans l'exposition sur grand écran, Frida Kahlo. C'est un documentaire britannique d'Ali Ray, qui est un réalisateur scénariste britannique. Les Kali. Alors, Frida Kahlo, c'est qui ? C'est Magdalena Frida Carmen Kahlo. Elle est née en 1907, elle est décédée en 1954 à 47 ans. Elle était artiste peintre mexicaine, la plus grande artiste peintre que le Mexique ait connue d'ailleurs. En janvier 1937, son époux, le peintre Diego Rivera, et elle-même reçoivent Léon Trotsky et sa femme pendant son exil politique. Pour donner une idée de sa vie, quand même, par rapport à tout ce qu'elle a traversé, en septembre 1938, ils accueillent donc Frida et Diego, le mari, ils accueillent le poète écrivain français principal, théoricien et animateur du surréalisme André Breton et son épouse Jacqueline Lamba, peintre décoratrice plasticienne française. Ça, c'est en 38. En 1939, Frida vient à Paris à la grande exposition sur le Mexique. Elle loge chez André Breton et rencontre les peintres Yves Tanguy, Picasso, Vassili Kandinsky. Alors Yves Tanguy, c'est quand même un peintre dessinateur surréaliste français, naturalisé américain, né en 1900 et décédé en 1955. Et puis Picasso, ben on le connaît Picasso, hein, 1881-1973, c'est celui qui a vécu le plus longtemps d'ailleurs, 92 ans. Peintre, sculpteur, dessinateur, graveur espagnol, ayant passé l'essentiel de sa vie en France. Et puis Vassili Kandinsky, c'est un peintre russe, naturalisé allemand, puis français. Qui était né en 1866 et décédé en 1944 à 78 ans. Voilà, c'est une partie de sa vie, hein, une petite partie de la vie de Frida Kahlo. Elle avait 21 ans d'écart avec son époux. Alors, ils s'étaient mariés en 1929. Elle avait 21 ans, il en avait 43. Ils ont divorcé en 39 et se sont remariés en 1940. C'était quand même des êtres exceptionnels. Et donc, en investiguant les expositions majeures sur Frida Kahlo et en interrogeant des conservateurs renommés, le documentaire explore le symbolisme extraordinaire et les thèmes des tableaux d'une des icônes féminines les plus importantes, Frida Kahlo. Ses couronnes de fleurs, ses gros sourcils et ses vêtements mexicains traditionnels ont fait de Frida Kahlo la muse de plusieurs générations, à tel point que l'on pense la connaître. Mais que se cache-t-il derrière l'image de cette femme intensément passionnée ? Alors, c'est titré « Partez sur les traces de la vie d'une icône mondiale. Découvrez la vérité derrière sa vie souvent turbulente. Une histoire personnelle et intime. Découvrez la vraie Frida Kahlo. C'est un festival de couleurs, une exubérance éclatante. Découvrez son art. » Titré par tout le monde. Vraiment un petit chef-d'œuvre. Hein. « Exhibition on screen. » Exposition sur grand écran, Frida Kahlo. Ça dure 1h30. Il faudrait le choper et puis ou attendre qu'il sorte également en DVD. Sinon, ben voilà, on va terminer. J'ai trois reprises. Le Malin, qui est un drame qui est sorti en 1979 de John Huston, qui est repris, là, ça y est, hein, depuis le début octobre, avec Amy White, John Huston dans le film Brad Dourif. C'est l'histoire d'un jeune militaire qui revient chez lui. Mais la maison familiale est abandonnée, il part pour la ville et rencontre un prédicateur, escroc, qui se fait passer pour aveugle. La fille de ce dernier tente de séduire le jeune homme. Celui-ci, agacé par la foi pervertie et l'imposture des gens, fonde un nouveau culte, l'Église sans Christ. Voilà. Le Malin, c'est un drame, 1h41, qui ressort, John Huston, évidemment. Ah ! Et puis, une reprise aussi de John Huston encore, parce que c'est lui qui est à l'honneur, là, avec deux films, Au-dessous du volcan. C'est sorti le 12 septembre 1984, et l'autre, j'ai dit, hein, il était de 1979, oui, Le Malin. Donc là, c'est 1984, Au-dessous du volcan, avec Albert Finet et Jacqueline Bisset. Ah, Jacqueline Bisset. La date de reprise s'est commencée là, depuis la première semaine d'octobre. C'est un film qui a eu beaucoup de nominations. Ça se passe en novembre 1938 au Mexique, décidément. On ne part plus du Mexique. L'ex-consul britannique est ivre-mort pour oublier le départ de sa femme. Elle revient au petit matin. Jacqueline Bisset, merveilleuse dans ce film. Albert Finet, évidemment, grand acteur. Et celui-là durait 1h48. Et enfin, la reprise du Silence des agneaux. Ah oui, il y avait celui-là. Non, il y en a un autre, oui. Le Silence des agneaux, c'est un thriller, un drame, qui est sorti en 1991. On le connaît, c'est très célèbre. Ce titre est très célèbre, de Jonathan Demme. C'est avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, Scott Glenn également. C'est l'histoire d'un psychopathe surnommé Buffalo Bill qui sème la terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant des jeunes femmes. Un jeune agent du FBI doit interroger l'ex-psychiatre Hannibal Lecter, psychopathe intelligent et porté sur le cannibalisme, et qui peut lui fournir des infos sur Buffalo Bill. Il accepte d'aider la jeune femme en échange d'informations sur sa vie privée à elle. C'était Jodie Foster, d'ailleurs, dans le rôle. Et c'était Anthony Hopkins, Hannibal Lecter. Donc, il ressort. Et oui, ouh, c'est un film, ça. Moi, j'ai été obligée de m'y reprendre à plusieurs fois, mes chéris, pour le voir, pour le regarder. Il repasse régulièrement. Parce que la première fois, j'ai laissé tomber à moitié du film, à la moitié. La trouille, mes chéris, la trouille. Et puis, la deuxième fois, je suis presque allée à la fin. Et j'ai réussi, la troisième fois, à le regarder jusqu'au bout. Le Silence des agneaux. Ah non, il y en avait un autre, Piège pour Cendrillon. C'est une reprise également, il est sorti en 1965. C'est un drame, un thriller de André Cayatte, grand réalisateur français. Donc c'est pareil, il est sorti là en octobre, il reprend en octobre, ça dure 1h58. Il y avait Danny Carrel, Madeleine Robinson, Jean Gaven, René Darry, que de grands, grands, grands acteurs. C'est victime d'un incendie, une jeune fille se réveille amnésique dans une clinique. Elle doit réapprendre les mots, les idées, la vie. On lui dit qu'elle est une riche héritière appelée Michel et que sa cousine a péri dans l'incendie. Bientôt, Michel va découvrir qui elle était vraiment. On se doute un peu de l'histoire quand même. Piège pour Cendrillon. 1h58. Voilà. Voilà, ça c'était pour les reprises de très très grands films. Alors soit vous les trouvez, quelquefois hein, les cinémas de proximité ressortent hein, des reprises. Ça arrive très très souvent.
Il y a eu dernièrement du côté de la Réole d'ailleurs le Titanic.
Mais oui, bien sûr.
Sorti en version restaurée.
Voilà. Donc surveillez bien parce que ce sont vraiment des grands films. Ça, là, ça vaut la peine. Voilà.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Anna.
Eh bien, mais
pour
moi,
toutes ces sorties cinématographiques.
C'est toujours un plaisir de parler de cinéma pour nos auditeurs. Dommage. Bah, ce que je regrette un peu, c'est qu'ils ne soient pas là, les auditeurs. Je voudrais tellement pouvoir parler avec eux, hein, en direct, comme ça, là, directement. Eh oui. Ben c'est comme ça, enfin, chez Damien quand même, hein. Faut pas non plus que j'exagère.
Je suis là.
Oui, qui a la gentillesse de nous passer les bandes annonces, et puis de temps en temps, là, de me soutenir. Ben, sauf là, il m'a pas soutenu là, dans le truc, là, quand je bégayais et que lui, il a dit directement 4 heures. C'était quoi déjà ?
32. 4h32. Voilà. C'est pas compliqué.
4h32, je sais pas pourquoi, ça ne sentait pas. Voilà, donc en tout cas, merci hein, Damien.
Merci à toi, Anne.
Et merci
toutes
à nos chers.
Toutes les semaines, au rendez-vous derrière son micro, le mercredi à 11h pour parler des sorties cinématographiques.
Et oui, bien sûr, bah, bien sûr, parce que pour l'instant, on n'a pas parlé de fermeture de cinéma pour le moment. En tout cas, moi, je n'en ai pas entendu parler. Il y a les théâtres, il y a les musées, tout ça. Mais
ah non, mais les théâtres peuvent continuer à être ouverts. Oui. C'est juste qu'il faut que tout soit terminé à 21h.
Voilà, mais ça, on n'est pas encore dans le. On nous a pas encore dit qu'on allait fermer dans notre coin ici, là.
Non.
Alors, on a plein de cinémas de proximité. Donc, pour l'instant, profitez-en, mes chéris. Vous aimez le cinéma. Vous ne voulez pas aller trop loin pour aller voir un film. Vous ne voulez pas payer trop cher non plus pour aller voir un film. Ben, vous avez justement les cinémas de proximité qui sont là pour vous. Eh oui, et qui réunissent toutes ces conditions. Pas loin, pas cher, confortable. Et puis surtout, surtout, ils font très, très attention... pour que vous n'ayez pas de soucis hein, avec les problèmes sanitaires que nous connaissons. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Hein, vivez bien, continuez à vivre votre vie normalement. Vous avez le masque dans la poche hein, ou dans le sac, puis voilà. Puis on le met quand c'est nécessaire, bien sûr. Il n'y a pas de problème là-dessus. En tout cas, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.